Bonjour, c'est Marilyn de la Possession à La Réunion. Dites donc, ils y vont fort, les auditeurs, en ce moment. Je sais bien que qui aime bien châtie bien. Je trouve les critiques un petit peu injustifiées. Moi, c'était juste pour vous dire bravo, bravo pour vos émissions, pour votre duo complémentaire avec Camille. Je laisserai peut-être pas d'autres messages, mais je continuerai à écouter vos émissions, ça c'est sûr. Bravo en tout cas.
Bonjour, Cyril de Kumamoto au Japon. D'abord, merci pour vos émissions et surtout pour les podcasts. C'est toujours sympa de pouvoir réécouter les émissions sans se soucier du décalage horaire. Moi, j'ai reçu aujourd'hui la profession de foi de tous les candidats à l'élection présidentielle dans une belle enveloppe envoyée depuis Paris. Donc jusque dans le sud du Japon, ça fait un petit peu loin. On se dit que s'ils font ça pour tous les Français expatriés, ça doit coûter cher en timbre et je n'imagine même pas l'empreinte carbone du transport. Vu que les ambassades ont déjà les coordonnées des Français enregistrées, au lieu d'envoyer du papier, envoyez-nous un message, un petit mail et puis comme ça la démocratie n'en souffrira pas et la planète vous en remerciera. Voilà, merci.
Oui, bonjour Jean-Claude, j'appelle de Périgueux en Dordogne pour vous informer que l'association SOS Forêt Dordogne organise le 9 avril une marche citoyenne pour la défense des forêts vivantes, l'occasion de mettre un petit peu l'accent sur l'incidence des coupes rases, la problématique des enracinements massifs et parler de gestion raisonnée et raisonnable dont nous vous attendons nombreux. Merci.
Bonjour, je suis Corentin de Béziers. Je suis parti de Béziers en vélo jusqu'à Paris depuis le 30 mars. Et pour arriver le 9 avril, afin de dénoncer l'inaction politique face au réchauffement climatique, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou Instagram avec urgence climatique blablabla. Bla bla. Je suis slameur. J'ai fait un texte qui s'appelle Assassin, que je vais poser devant l'Assemblée nationale et essayer aussi de le poser devant les jeunes qui font la marche pour le climat afin de les soutenir. Merci beaucoup.
Bonjour la Terre au carré, c'est Odile de Bougival. Aujourd'hui, je voulais faire la promo pour le Festival de l'Oiseau et de la Nature qui aura lieu pour la 31e année du 9 au 18 avril en Baie-de-Somme. Si cela vous intéresse, vous pouvez donc consulter le site du festival sur le net, festival-oiseau-nature.com. À bientôt, au revoir.
Et merci pour tous vos messages et vos rendez-vous écolo du week-end. Et puis bien sûr, laissez-nous toutes vos informations et vos messages sur le répondeur pendant cette fin de semaine au 01 56 40 45 45. Et au sommaire de ce mini-club de la Terre au carré, il sera question de la constellation de satellites d'Elon Musk qui accélère son expansion, mais qui vient aussi d'être privée de fréquence chez nous autres irréductibles gaulois. Et puis nous révélerons le semeur ou la semeuse qui sommeille en vous grâce au bon plan de notre invité qui va partager son expérience avec nous. Et pour ces deux sujets, nous accueillons l'astrophysicien Éric Lagadec en duplex des studios de France Bleu à Nice. Bonjour.
Bonjour Camille, bonjour Mathieu.
Et avec nous en studio à Paris, la productrice de plantes bio, Élise Goulot. Bonjour.
Bonjour.
On va se retrouver dans un instant avec les messages, les questions qui arrivent bien sûr comme tous les jours en direct sur la page de l'émission, sur les réseaux sociaux et sur l'application France Inter où vous pouvez nous rejoindre avec vos messages vocaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu et bonjour tout le monde.
14h20, ce sera votre journal des bonnes nouvelles du vendredi.
Avec facteurs et cartes postales en Antarctique, un gagnant généreux pour la planète et des sons de la Terre.
Et voilà donc pour le sommaire de cette émission. 14h40 bien sûr, ce sera notre cher et tendre programme pour la campagne présidentielle. Valérie Ayestaraï est aux commandes de l'émission. Emma Bouvier a préparé le dossier. Elisabeth Collet est à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Dans l'espace, ces drôles de pointillés dans le ciel ne sont pas des ovnis. Ça s'appelle un train de satellite. Ils sont régulièrement mis en orbite par la société SpaceX du milliardaire Elon Musk. C'est le projet Starlink qui promet l'accès à l'Internet haut débit partout dans le monde.
Starlink, c'est ce qu'on appelle une méga constellation, une méga flotte de satellites. Et quand on dit méga constellation, c'est environ 40 000 satellites.
La voix de l'astrophysicien Michel Montargès, extrait d'une vidéo du Média Brut en octobre 2021. Starlink, grab de satellites donc d'Elon Musk, qui suscite beaucoup de réactions chez les astronomes du monde entier. Eh bien, Starlink continue d'accélérer son expansion dans un contexte, on va le voir, très contrasté, puisque d'un côté, la NASA s'inquiète d'un encombrement des orbites qui pourrait condamner leur utilisation. La France
France, elle prive l'opérateur de ses fréquences sur son territoire. Et puis de l'autre, la société d'Elon Musk contribue à sauver l'Internet en Ukraine. Éric Lagadec, vous êtes donc avec nous, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, spécialiste de poussière d'étoiles et président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Les satellites de Musk, ce sont de sacrées poussières dans le ciel, mais ce ne sont pas vraiment celles que vous aimez étudier, je crois, hein.
Exactement. L'idée, c'est que ces satellites permettent donc de faire des communications. Et contrairement à ce qu'on avait d'habitude, avant, c'était des satellites qui se trouvaient en orbite géostationnaire, donc ils sont toujours au-dessus du même endroit. Et du coup, ils étaient beaucoup plus hauts, à 36 000 km d'altitude. Et là, pour perdre de la latence, pour avoir justement des communications plus rapides, ces satellites sont beaucoup plus bas, mais du coup, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus. Et ça peut vraiment beaucoup gêner les observations astronomiques. Un chiffre qui parle pas mal, c'est que ça peut toucher jusqu'à 40% des observations du futur télescope qu'on est en train de construire au Chili, qui s'appelle Vera Rubin. 40% des observations en début et en fin de nuit, c'est quelque chose qui potentiellement est énorme.
Éric Lagadec, l'orbite basse, alors c'est à combien de kilomètres de la Terre?
C'est à peu près 500 kilomètres.
Oui, donc c'est vraiment très peu. Et cette constellation donc de Elon Musk semble prendre de l'ampleur. Il l'a lui-même annoncé d'ailleurs sur Twitter fin mars. Il veut doubler le nombre de ses satellites en orbite basse pour atteindre 4200 satellites en service d'ici 18 mois, parce qu'en fait, ses prétentions sont encore beaucoup plus importantes. Donc ça représente un vrai problème. On dit que c'est le cauchemar des astronomes. C'est vraiment ça pour vous?
Le cauchemar, je sais pas, mais c'est avant tout une peur, parce que pour l'instant, l'impact n'est pas encore très grand, mais c'est parce que la constellation n'est pas entière et tous les télescopes qui risquent d'être impactés ne sont pas encore en fonctionnement. Je pense notamment au SKA, c'est un télescope qui va être construit en Afrique du Sud et en Australie, qui est un télescope radio, et là, pour le coup, ces télescopes radio sont construits dans des déserts, dans des endroits où il n'y a vraiment aucune télécommunication, et si on a ces satellites qui passent au-dessus, ça peut avoir un impact très fort, comme aussi celui dont je parlais tout à l'heure, le Vera Rubin au Chili. Donc il y a un risque important, et c'est pour ça que les astronomes se sont retrouvés au COPIOS de l'ONU, donc le comité pour l'utilisation pacifique de l'espace, avec pour but justement de discuter ça et de voir comment travailler ensemble pour éviter justement des dégâts irréversibles pour l'astronomie.
Et les impacts concrets, en fait, c'est quoi? C'est qu'en gros, ça vient parasiter le ciel, ça fait des points lumineux qui viennent un petit peu parasiter les observations, juste pour qu'on se rende compte, en fait, à quoi ça correspond, cette pollution lumineuse, dans le cadre d'observations de télescopes.
Oui, j'imagine que c'est pas simple pour les auditeurs d'imaginer. Ouais. En fait, il y a deux types de pollution. Il y a la pollution qui va parler facilement aux gens, c'est la pollution lumineuse. C'est-à-dire que si on regarde à l'œil nu au moment des lancers, on voit ces traînées de satellites. Donc vous imaginez bien que si on fait une photo avec le télescope, hein, ça peut vraiment brouiller les photos, mettre du signal qui n'est pas des étoiles, mais justement ces satellites. Mais il y a aussi quelque chose qui est plus difficile à imaginer, c'est tout ce qu'il y a au niveau des ondes radio. Donc les ondes radio, c'est de la lumière, mais à plus faible énergie. Et ces ondes radio, on essaie d'observer des choses très faibles dans l'univers, et ces satellites, quand ils passent au-dessus, ils envoient des signaux radio très très forts. Donc imaginez, c'est comme si vous vouliez regarder quelque chose. Imaginez, vous essayez de voir un ver luisant et quelqu'un vous met les pleins phares dans les yeux, vous voyez plus le ver luisant. Ben, c'est exactement ce qu'on essaie de faire en astronomie, avec pour le coup de la lumière radio, mais ça nous empêche de détecter les signaux qui viennent de l'univers, de la lumière qui a pu mettre jusqu'à 13 milliards d'années pour arriver jusqu'à nos télescopes.
Éric Lagadec, on peut craindre des embouteillages, donc en orbite basse, des débris, des risques de collision également entre les satellites s'ils sont trop nombreux?
Il y a des risques, il y a déjà eu avec Starlink un risque de collision avec un satellite de l'ESA, mais évidemment plus on met des satellites, là vous parliez de quelques milliers, il faut savoir que Starlink a une autorisation pour jusqu'à 42 000 satellites,
oui.
Et qu'il y a d'autres constellations qui sont en cours, là il y a OneWeb aussi qui est pour le coup arrêté en raison du conflit en Ukraine, puisque c'était de lancer avec Soyuz dans des lanceurs russes.
Ouais.
Mais il y a aussi Amazon qui va faire sa propre constellation. Donc il y a de plus en plus de satellites. Depuis 2019, on a doublé le nombre de satellites qui étaient en orbite. Donc plus on a de satellites, plus on a de risques de collision. Après, faut faire attention. Souvent, on se fait des images des débris dans l'espace. Faut savoir que l'espace porte assez bien son nom. Il y a quand même beaucoup d'espace. Mmh. Mais évidemment, plus on va mettre de satellites, plus il y a des risques de collision. L'ordre de grandeur, maintenant, on a plusieurs centaines de milliers de débris, donc les risques de collision vont augmenter avec le temps, et évidemment c'est important de préserver l'espace, parce que là on a des besoins hyper importants, notamment pour la surveillance de la Terre vis-à-vis du dérèglement climatique.
En tout cas, Starlink qui commence à tomber sur des os en France, hein, parce qu'effectivement le Conseil d'État donc a refusé des fréquences hertziennes pour la société donc d'Elon Musk. C'est un véritable revers d'ailleurs pour Starlink. Il y avait eu un accord qui avait été donné par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications, en février 2021. Et puis les communes également qui se sont opposées pour l'installation justement de stations terrestres. Donc c'est-à-dire qu'en France, on se laisse pas faire contre l'opérateur américain quand même, hein?
Exactement, mais en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la dernière chose qui est arrivée à Starlink, ce n'était pas vraiment la faute de Starlink, c'était l'ARCEP, qui est donc l'autorité de régulation des communications électroniques.
Ouais.
Elle aurait dû organiser une consultation publique, et ça n'a pas été le cas, et c'est pour ça que le Conseil d'État a refusé l'accès à Starlink aux fréquences hertziennes qui avaient été accordées.
Mais Eric Lagadec, il y a une question que je me pose quand même, alors c'est pas du tout pour prendre la défense de Starlink forcément, mais on dit souvent quand même que les satellites servent, quand on met en cause par exemple l'espace, les travaux sur l'espace, etc., on dit souvent, les scientifiques disent « Ah oui, mais ça sert aussi par exemple à observer la Terre et donc à faire des choses par rapport au climat. » Starlink peut n'avoir aucun intérêt dans ce cadre-là, par exemple ?
Pour l'observation du climat, non, c'est juste de la télécommunication. Après, il y a des intérêts. Donner accès à Internet à des endroits où les gens ne l'ont pas, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, j'aime bien le dire, je travaille beaucoup avec des gens en Afrique qui sont dans des endroits où il n'y a pas accès à Internet, et ouais. C'est hyper important de pouvoir donner accès à Internet à ces personnes. Après, en France, ça revient à 700 euros, je crois, l'installation, et à peu près 99 euros par mois, donc c'est un public un petit peu aisé, quand même, qui est touché. Mais il n'y a pas d'intérêt direct, et je suis le premier défenseur des satellites pour, évidemment, la surveillance de la Terre vis-à-vis du changement climatique, et aussi pour l'astronomie, j'en utilise moi-même.
En tout cas, il y a deux communes, hein, Gravelines dans le Nord et Saint-Saulnier-de-Beuvron dans la Manche, qui se sont mobilisées et qui ont donc empêché l'installation de ces stations terrestres. Un dernier mot, parce que l'actualité de Starlink et d'Elon Musk, c'est également l'Ukraine. On voit vraiment à quel point c'est très contrasté, hein, autour de cet opérateur privé, puisque un grand nombre de kits de connexion ont été livrés à l'Ukraine. Et en même temps, aujourd'hui, ce réseau est aussi critiqué. Pour quel réseau, Eric Lagadec ?
Il y a plusieurs raisons. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que l'idée, c'était d'apporter Internet aux Ukrainiens pour essayer de lutter dans la guerre pour la désinformation qui a aussi lieu en Ukraine. Mmh. Mais l'un des risques soulignés par Elon Musk lui-même, c'est que quand on a des récepteurs pour Starlink, les Ukrainiens qui ont ça peuvent être repérés par les Russes et ça peut être des cibles potentielles militaires. Ça peut être assez dangereux. Donc le message qui a été passé par Elon Musk via son compte Twitter, c'était de dire aux Ukrainiens de faire attention en utilisant les récepteurs de Starlink qui ont été envoyés par milliers. Je crois que le vice-premier ministre d'Ukraine a dit qu'ils avaient plusieurs milliers de récepteurs qui fonctionnaient, qui leur donnaient accès à Internet.
Eric Lagadec, aussi nombreux soient les astronomes dont vous faites partie, est-ce que vous pensez que vous pouvez un jour réussir à gagner face à Elon Musk et sa méga entreprise ?
Et ses 40 000 satellites.
C'est une très bonne question. On s'est retrouvé devant le copieuse de l'ONU et je pense que malheureusement, j'ai envie de dire, au départ, on voulait protéger le ciel en faisant un patrimoine mondial de l'humanité. On nous a dit que c'était pas possible. Donc, pour moi, c'est important de réussir à préserver le ciel qui est vraiment, pour moi, le plus vieil héritage commun des êtres humains. Tous les êtres humains, depuis des millénaires, regardent le même ciel. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est travailler ensemble pour faire en sorte que les gens qui construisent ces constellations, parce qu'il n'y a pas que Starlink, soient au courant que ça a un potentiel danger pour l'astronomie, donc travailler ensemble afin de minimiser ce danger. Et comme je vous disais aussi, quelque chose qui est important pour moi, c'est que à partir du moment où on a une technologie, il faut réfléchir en tant qu'humain à est-ce que le fait qu'on puisse faire une technologie soit une bonne raison pour la faire. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Ça, je pense aussi une réflexion à avoir au niveau mondial.
À méditer. Merci beaucoup Eric Lagadec, spécialiste des poussières d'étoiles, et merci aux équipes de France Bleu à Nice pour ce duplex.
France Bleu Azur.
Et dans un instant, ce sera le journal des bonnes nouvelles du vendredi.
Je regarde dehors, je vois des montagnes nues dans mon village du nord. La fièvre noire, j'aimerais te mordre plus tôt. Je sur Labrador, les murs me font perdre la vue et mon visage se tord. La fièvre noire, j'aimerais te mordre plutôt. oiseaux. Ma fenêtre est close et j'ai le vague à l'âme.
C'était La fièvre noire de Laura Cahen.
France Inter. La Terre au carré.
Et comme tous les vendredis, on passe au vert avec le tour des bonnes nouvelles et des curiosités de la planète, Camille Cronier.
Et alerte job sympa. Que diriez-vous de passer 5 mois en Antarctique pour tenir un bureau de poste, un petit musée, faire des relevés météo et compter les manchots?
C'est ça votre boulot sympa?
Bah ouais, non. 3 postes sont à pourvoir pour gérer l'ancienne base scientifique britannique de Port Lockroy pendant l'été austral entre novembre et mars prochain. C'est la fondation UK Antarctic Heritage qui a publié l'annonce et Lorraine Luscombe, elle-même ancienne occupante temporaire des lieux, gère les candidatures.
C'est un boulot absolument génial et unique. Certainement pas le plus facile et vraiment pas fait pour tout le monde. Il faut être en forme physiquement et bien sûr costaud mentalement, positif, avec la bonne attitude. C'est indispensable parce que vous allez être là-bas 5 mois, loin de vos amis et de votre famille, avec une toute petite équipe. Il faut être conscient des enjeux environnementaux, passionné de patrimoine, très important aussi, de connaître la vie sauvage et l'envie profonde d'être dans ce lieu et se dire qu'on peut surmonter l'épreuve.
To go to this place and feel that they can get through the experience.
Mais c'est tellement magique, totalement entouré de glaciers, de montagnes. C'est inspirant, ça ne ressemble à aucun autre endroit dans le monde.
Candidature jusqu'au 25 avril, mais je précise qu'il faut avoir un visa de travail britannique. Ah, donc vous avez clairement plus de chances, si vous êtes déjà installé au Royaume-Uni, de passer Noël en Antarctique. Un autre site d'exception, le Machu Picchu. Tout le monde connaît au moins le nom, on est d'accord. Eh bien, figurez-vous que c'est le mauvais nom. Eh oui, les archéologues se seraient gourés il y a 100 ans. Machu Picchu, ça veut dire vieille montagne, mais la cité Inca était en fait appelée Huayna Picchu, jeune montagne, d'après une étude publiée il y a quelques jours, c'est ballot.
Un peu, ouais.
Est-ce que vous vous souvenez de cette pub ?
Riche, je vous le demande.
Tenez bon ! Non !
Plus de pays, plus de millions. Euromillions, devenez plus riche que riche.
Jeux et slogans qui font bondir certains d'entre vous, j'en suis sûre. Mais un monsieur jouait depuis des années, lui, avec un but précis. Consacrer la majeure partie de cette somme à la création d'une fondation pour la protection des forêts et la préservation de la biodiversité. Il a écrit ça dans une lettre ouverte. Lui, que l'on nomme Guy, après avoir annoncé que le pactole qu'il a fini par gagner l'an dernier, 200 millions d'euros, allait donc à cette noble cause, fondation qu'il vient de créer, Anyama. Isabelle Césari est l'une des rares à avoir été en contact direct avec lui, puisqu'elle est responsable des relations grand gagnant à la Française des Jeux.
Je m'en rappelle très bien, je me rappelle même du premier coup de fil, c'était le lendemain de son gain. Très vite, il m'a dit « moi, je jouais pour donner ». Et donc je souhaite donner la quasi-totalité de ce que j'ai gagné à une œuvre qui me tient à cœur. Et il est tellement, mais tellement heureux d'avoir concrétisé ce projet. Très souvent d'ailleurs, hein, il me dit, vous vous souvenez, c'est ce que je vous avais dit la première fois au téléphone. Eh ben, je l'ai fait, j'ai réussi et c'est formidable.
Et comme le climat et la biodiversité, c'est cher au mystérieux Guy, mais il écoute forcément la Terre au carré.
Oui.
Donc Guy, j'ai fait la demande pour échanger avec vous en préservant bien sûr votre anonymat. Donc si vous m'entendez, n'hésitez pas surtout, j'ai plein deux questions à vous poser. Vous le dites à la Française des Jeux, ils sont au courant. Autre appel, tant que j'y suis, tiens, Leonardo DiCaprio. Léo, si tu m'entends, Léo, je relais ton combat pour sauver le mammifère marin le plus menacé au monde, le marsouin du Pacifique, dont il ne reste qu'entre 6 et 19 individus. Des opérations pour traquer les pêcheurs illégaux de Vaquita, la petite vache, sont organisées 7 jours sur 7 en Basse-Californie. Le défi, c'est la Vaquita et les filets de pêche illégaux dans l'eau, explique ce membre de Sea Shepherd qui travaille avec la marine. Si nous voyons une réduction spectaculaire des filets illégaux dans l'eau, nous savons que la Vaquita a une chance de s'en sortir. Et de la vache de mer à la grenouille Tongara, il n'y a qu'un pas, enfin qu'un son en l'occurrence. Pour un petit clin d'œil aux chroniques Le son de la terre de l'éco-acousticien Jérôme Sueur l'an dernier dans l'émission, il en a fait un livre, regardez Mathieu, paru chez Actes Sud, avec le texte et le son, oui, puisqu'il y a des QR codes. C'est ainsi que vous pourrez aussi réécouter, bah tiens, les vents catabatiques de l'Antarctique pour se préparer à votre futur boulot de facteur du bout du monde, pardi.
Ça fait du bien, hein ?
Un peu froid, quand même.
Et c'était le journal des bonnes nouvelles de Camille Cronier que vous pouvez bien sûr réécouter sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Le potager, c'est souvent un souvenir d'enfance. Un souvenir de vacances à la campagne aussi. Aujourd'hui encore, les agriculteurs, les ruraux en général, attendent de leur potager l'essentiel de leur alimentation.
Vous parvenez à avoir combien de kilos de pommes de terre ?
300 kilos par l'année. Pour notre jardin, nos besoins personnels.
Les petits pois ?
Des petits pois, j'ai fait mon semis là de l'hiver. Alors je commence à faire tous les semis de printemps.
Et vous, Élise Goulot, vous avez combien de kilos de pommes de terre tous les ans ?
Oula, on n'est pas encore, en maraîchage, on n'en est qu'au semis pour l'instant.
Donc là, c'était une archive de 1973, vous qui êtes productrice de plantes bio, de légumes aromatiques et fleurs comestibles.
Parfait.
Et vous êtes donc l'autrice de cet ouvrage, Les bons plans d'Élise, réveiller la semeuse ou le semeur citoyen qui sommeille en vous. C'est publié chez Tana Édition. Vous êtes à l'origine une citadine, issue du monde du cinéma, d'animation.
C'est ça.
Comment est-ce que vous êtes retrouvée en Normandie, comme ça, à cultiver vos légumes ?
Alors, clairement, c'est via mon engagement écologiste, la prise de conscience, un petit peu comme tout le monde, sur le long terme, on parle d'une dizaine d'années, à d'abord faire des petits gestes, comme avoir un compost, manger moins de viande, arrêter de prendre l'avion, recycler ses déchets, en parler autour de soi, faire des marches pour le climat. Et au bout d'un moment, il faut que les actes, voilà, il faut passer aux actes, voilà, il faut que les convictions rejoignent un peu la vie quotidienne. Et donc, j'ai d'abord tâtonné, hein, j'ai cherché un autre studio d'animation, j'ai essayé de monter des projets. Et puis à un moment est venue l'agriculture et tout a pris sens. Il arrive des moments comme ça dans la vie où ça s'explique pas. Et donc j'ai foncé à partir de ce moment-là. Je me suis formée. J'ai déménagé en Normandie en 2019 et depuis je garde le cap.
Et depuis vous avez les ongles noirs avec de la terre.
Mais comment est-ce que vous y connaissiez quelque chose, enfin plus particulièrement, parce que faire des plans par exemple c'est quand même pas tout à fait anodin.
C'est sûr. Non, je n'y connaissais rien. Par contre j'ai beaucoup regardé de vidéos, je me suis beaucoup formée, j'ai fait une formation à la permaculture à l'école de Breuil à Paris. Et puis après j'ai fait un petit peu aussi dans mon appartement, j'ai fait des semis, je me suis lancée, c'était raté un petit peu mais au début, mais bon ça m'a donné envie de continuer. Et puis j'ai fait ce bac pro production horticole par correspondance, suivi d'un stage de 6 mois dans une ferme en maraîchage, donc j'ai quand même mis les mains un peu dedans, tout en continuant à lire beaucoup de livres, à regarder beaucoup de films, de documentaires, de vidéos. Et donc au bout d'un moment on acquiert quand même une petite base pour se lancer dans les semis, sachant que j'en parle un peu dans le livre. Les semis c'est quand même une activité qui est vraiment une porte d'entrée super pour le maraîchage, parce que c'est très valorisant, parce que c'est pas très difficile en vérité.
Bah alors c'est quoi exactement qu'un semis ? Expliquez-nous, pour nous qui ne connaissons rien.
C'est une cata.
Alors, pour qu'un végétal pousse, il faut semer une graine. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a ce qu'on appelle le semis direct, il s'agit donc de semer une graine dans le sol. Mais le pépin, c'est qu'elle est en compétition avec toutes les autres graines qui sont dans le sol, avec les ravageurs, avec la mauvaise météo peut-être. Et donc depuis un siècle ou deux, les maraîchers ont fait ce qu'on appelle des semis hors sol, donc dans des serres, dans des pépinières, pour donner toutes les chances aux graines d'être dans les meilleures conditions, donc climatiques, pas de pas de ravageurs, enfin, il y en a, mais moins.
Il y en a, vous le dites d'ailleurs.
Oui. Moins de maladies, enfin, une gestion de la maladie, un contrôle, enfin, on essaye un contrôle des maladies et des ravageurs, et surtout pas de compétition avec d'autres graines. Donc, au moment où le végétal est le plus fragile, c'est là qu'on lui donne toutes les chances pour qu'il s'en sorte.
Et est-ce que c'est ça que nous, naïfs semeurs avec Mathieu, on peut acheter, par exemple, dans une jardinerie ou quoi? C'est les plants, en fait, où il y a déjà un petit peu de la terre autour.
En fait, c'est ça. Ce qu'on appelle semis, c'est vraiment la base, quand on sème la graine, et ensuite, elle arrive au stade de plant, qui là est vendable, oui, dans une jardinerie ou chez moi.
Voilà. Et donc vous avez une serre en fait, c'est ça? Vous faites tout sous serre, hein?
Oui, pour l'instant je suis en installation progressive moi avec la chambre d'agriculture, donc j'ai qu'une serre pour l'instant de 200 mètres carrés, j'en aurai bientôt d'autres. On fait tout sous serre, moi particulièrement sur table à marée, il y a des gens qui le font au sol, moi je le fais sur table avec un système d'irrigation un peu particulier. Donc vraiment c'est un milieu qui est presque aseptisé, bon on parle quand même de... On est quand même
c'est un laboratoire un peu finalement.
Oui c'est un grand mot quand même, ça reste une serre avec de la terre et des...
Donc ça veut dire que pour les novices, il vaut mieux commencer, on a un jardin par exemple, plutôt à mettre un plant qu'une graine directement?
Ça dépend vraiment de l'espèce. Il y a des espèces qui sont faites pour le semis direct qui vont pas bien s'en sortir en semis sous serre. Il y a des espèces vraiment, il vaut mieux les faire sous serre. Mais je dirais qu'on peut vraiment semer même si on n'a pas de jardin. J'en suis bien la preuve. On peut semer chez soi, en intérieur. Déjà, c'est mieux pour la chaleur en début de saison. On peut semer si on a un balcon, une jardinière. Enfin, vraiment, semer.
On voit une photo de votre chambre. Hein. Il y a un plant de tomate près de votre lit, par exemple.
C'était avant. Oui. Oui, c'était. Bah oui, il faut tout tenter. Dès qu'il y a une fenêtre bien exposée, il faut pas.
Ingrédient indispensable, le sol. Enfin, la lumière.
La lumière.
D'accord.
Oui.
Alors, Élise Goulot, donc, vous avez démarré en 2019. C'est-à-dire que 3 ans plus tard, vous nous faites déjà un ouvrage avec vos conseils. Mais c'est hyper gonflé, moi,
je trouve. C'est ça, c'est très gonflé. Oui, cet ouvrage, c'est le résultat d'une rencontre avec l'éditrice de la maison d'édition Tana, qui vraiment, elle a eu une vision dès le début de ce que j'avais à dire. Moi, j'ai eu plus de mal à le trouver. Et au final, vraiment, je suis convaincue que j'ai une légitimité à écrire ce bouquin qui est, à mon avis, dans le timing. C'est-à-dire que je suis vraiment au passage entre l'amateur et le pro. Du coup, je me souviens encore très très bien de toutes les questions qu'on se pose quand justement
on veut démarrer,
on a une tomate à côté de son lit. Mais je comprends maintenant bien les enjeux de comment on y arrive mieux.
Et alors, quel conseil indispensable vous donneriez aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient se lancer, que ce soit en ville ou à la campagne?
Surtout que vous décrivez un parcours du combattant quand même, hein.
Oui. Vous voulez dire un conseil pour ceux qui voudraient semer ou ceux qui voudraient vraiment se lancer dans...
Les deux.
Pour semer, je pense que le conseil, c'est juste d'y aller. Faut y aller, faut tenter, vous allez rater, vous allez y arriver. Il n'y a pas de secret, c'est le faire en fait. Voilà, il faut rentrer dans le faire. Pour les gens qui veulent se lancer dans la néo-ruralité ou même pire, dans l'agriculture, vraiment je conseille de s'accrocher, je conseille d'être bien entouré, d'y croire vraiment. Et c'est un peu, alors j'ai pas d'enfants, mais j'ai entendu dire que pour les enfants c'était pareil, il faut pas tout savoir ce qui va arriver. Parce que sinon c'est très décourageant. C'est tellement gros, c'est tellement une montagne, c'est très dur psychologiquement, c'est très dur physiquement évidemment, administrativement j'en parle pas.
Et financièrement, parce que c'est l'accès au foncier, pardon. Comment vous avez fait vous pour arriver en Normandie et pour trouver votre lieu?
J'ai beaucoup de chance, il faut un peu de chance aussi. Hein,
vous avez passé une annonce.
J'ai passé une annonce dans le Bessin Libre, un journal local de Bayeux, en disant bonjour, je cherche un terrain de 1000 à 10 000 m² vers Bayeux. Et un couple d'anciens agriculteurs retraités m'a contacté et donc j'ai eu beaucoup de chance parce que...
Vous l'avez provoqué, mais... Il en faut.
Mais j'ai eu beaucoup de chance. C'est très difficile pour des gens qui m'entourent aussi, notamment d'avoir cet accès et moi je suis très reconnaissante.
Qu'est-ce que vous semez là en ce moment exactement?
En ce moment, beaucoup de courgettes parce que la saison arrive à grands pas. Le mois de mai arrive et les gens vont vouloir bientôt semer. Il y en a qui ont des serres, donc ils sont très très impatients. Il y en a qui n'en ont pas, donc ils veulent bien attendre un petit peu.
Oui, parce que alors, pardon, question, mais quand on n'a pas de serre et d'abri, avec le temps pourri qu'il peut faire en ce moment à certains endroits, est-ce qu'il vaut mieux attendre en fait?
Tout à fait, il faut attendre. Je suis une grande fan du respect de la saisonnalité.
Ça, c'est pour son balcon.
c'est pas du tout intéressé.
Parce qu'elle a un balcon avec des plants de tomates, Camille Cronier, c'est pour ça.
Déjà, j'attends. Non, il faut attendre.
Non, elle n'a
pas de tomates pour l'instant.
Non, oui, je suis un peu choquée des gens qui me contactent au mois de février pour avoir un plant de tomates. Je suis choquée d'en voir en jardin.
Globalement,
c'est un truc qui me...
Et les fraises, c'est pareil.
Les fraises. Les gens sont impatients et je le comprends parce qu'on a tous envie que le printemps revienne et c'est un super processus, mais je pense qu'il faut respecter ça.
Donc il faut attendre qu'il fasse à peu près beau quand même.
Oui, chaud.
Et il y a tout ce qu'il faut d'ailleurs dans le livre pour les saisons, pour connaître quels légumes à quelle saison. C'est complètement idiot, mais c'est vrai que c'est super utile pour pas aller... Pour
parce
pas aller
des fois,
trop
on
vite.
On a un peu oublié aussi.
Ouais. Donc l'idée pour vous, c'est vraiment de partager votre expérience, effectivement, entre ce stade de vraiment nouvelle arrivante dans le milieu de l'agriculture et puis celle qui aimerait se professionnaliser.
C'est ça. C'est de partager l'expérience, de donner envie de faire, mais aussi de forcer quelque part les gens qui lisent le livre à se poser des questions, parce que je pense une chance que j'ai en tant que non issue du milieu agricole, comme on dit, Nima, c'est que vraiment je suis une page blanche, donc l'inconvénient c'est qu'au début je connaissais rien. Le vrai avantage c'est que je connais rien. Donc je n'ai pas de modèle prédéfini, vraiment je me pose des questions sur tout, je me pose des questions sur les graines, le terreau, les contenants, l'eau. Il n'y a pas mes parents qui m'ont appris qu'on faisait comme ça en fait. Donc je recommande à tout le monde de se poser des questions. À un moment je parle du terreau, de ce qu'il y a dedans, la tourbe, d'où ça vient, pourquoi, comment on peut faire autrement. Et je me pose vraiment beaucoup de questions. Mmh. Et donc ce livre, je le vois aussi comme à pousser les gens à s'engager dans l'écologie, voilà, à se poser des questions tout le temps sur l'éthique en fait de ce qu'on fait.
Élise, vous avez un peu le profil finalement de ces néo-ruraux, hein. Je disais, vous arrivez du milieu du cinéma, de Paris, donc vous avez un peu cette caricature. Mmh. Comment vous êtes acceptée, vous, en Normandie, là, vraiment, quand vous êtes dans le milieu ?
Et un peu les deux. C'est-à-dire que moi, je mens pas du tout sur qui je suis. Je suis assez entière. Je peux pas vraiment faire semblant. Donc, ça se voit assez vite. Voilà. J'ai la chance d'avoir été en stage dans une ferme qui s'appelle le Jardin de Demain à Côme, où vraiment, ils sont très ouverts d'esprit sur la différence. Ils sont très tolérants. Donc, j'ai été très, très bien accueillie dans ce monde agricole. Maintenant, en avançant, je rencontre des gens qui sont un petit peu plus réfractaires. C'est moins facile. Mais moi, j'ai l'espoir que la bonne humeur et la persévérance feront le travail.
Vous pensez justement qu'il va y avoir un peu plus de porosité aujourd'hui entre les mondes un petit peu différents, parce qu'il y a besoin de toute façon d'agriculteurs, de semeurs, de paysans. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir de plus en plus de Nima, comme vous avez dit,
qui s'y mettent
et que ça se passe bien, je veux dire que le mélange prenne, quoi.
Je pense que ça va être obligé, en fait. Il va falloir que ça se passe. Ça va pas être facile. Je le dis un peu dans l'introduction. Moi, j'ai été à 3 jours de formation avec la Chambre d'agriculture dans le cadre de l'installation. Et donc, en fait, on met autour d'une table tous les jeunes agriculteurs. Ils appellent ça, bon, ça va jusqu'à 40 ans, donc c'est un concept. Mais on se met tous autour.
Elle est très désagréable, cette fille.
Enfin, on peut être jeune largement à 40 ans.
C'est ça. Même au-delà.
Donc, on se met tous autour d'une table et on discute pendant 3 jours de tous les sujets avec une médiatrice, en fait. Et là, c'est le choc. Parce que dans la Manche, en plus assez profonde, il y a des gens qui sont pas encore au stade où ils ont envie de vraiment changer les pratiques. Mmh. Et donc ça crée un choc culturel qui est très intéressant.
Élise, vous vendez aussi sur le marché
oui.
ou dans une boutique en ligne,
je
c'est
commence
ça, hein
la semaine dernière, la semaine prochaine, pardon, ouais. Les marchés.
Ah oui, très
oui,
bien.
Oui, oui.
Mais en ligne, c'est déjà le cas. Hein.
Oui, en ligne, oui. Bon. On peut précommander les plants.
Et comment va Fenouil
Fenouil est gardé par mon cousin et ma cousine Claire voilà. et Stéphane.
Mais c'est le chien d'Élise qui est en photo évidemment.
Oh, oui. C'est la mascotte de la pépinière.
À plusieurs prise dans cet ouvrage. Ça s'appelle Les bons plans d'Élise, révéler la semeuse ou le semeur citoyen qui sommeille en vous. C'est un livre très utile pour ceux qui démarrent et c'est chez Tana Éditions. Merci beaucoup d'être venu depuis la Normandie.
Merci.
Bon retour chez vous. Et puis dans un instant, ce sera comme chaque jour et pour la dernière fois cette semaine, le journal de la campagne pour la présidentielle.
Yeah. Ladies and gentlemen, boys and girls, I need y'all to just rock with me. Yeah, I used to dream about a Dodge Charger. Suicide dose, sitting on 24s. I was trying to find a job and shit, why bother? Being broken, making try harder. Sitting in the house watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. I used to dream about a new Hummer. Back when good music dropped Cruel Summer. Back when niggas wondered if I do numbers. Check the stats, boy, nigga doing huge numbers. Got this dime piece sucking on my cucumber. I ain't doing too bad for a newcomer. This life shit gave me scars with a bruise under. Certain shit'll make you wonder. But that's a part of the game. We call life, love is hard to attain. My little brother drive a Jeep and I just bought him a chain. A real nigga, what I'm is and what I always remain. But this bitch temptation keep calling my name. I wrote this song in LA, I was driving my Benz. Thinking about this road I'm on to acquire ends. I'm a fucking outlier, I retire these trends. Niggas told me I was stupid just for hiring friends. I used to dream about a Dodge Charger. Suicide dose, sitting on 24s. I was trying to find a job and shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Yeah, 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 yeah. We'll be right back.
Sea Carter, c'était Cordé sur France Inter. Élise Goulot, avant de vous quitter, vous serez sur quel marché, votre premier marché?
Au marché à Caen, le dimanche matin.
Voilà.
Mais... Et au Mollet Literie le jeudi.
Mais c'est pas là ce dimanche-là, c'est l'autre.
Non, c'est à partir de la semaine du 19 avril.
Voilà, allez l'encourager si vous êtes en Normandie. Bon week-end, Camille Cronier.
Très bon week-end à tout le monde.